Bon, est-ce que tout le monde m'entend? Alors, l'objectif de mon propos, il est double. C'est d'abord de nous introduire de manière globale à tout le cycle. Le cycle donc qui court jusqu'à Noël, je crois, sur la prière, les différentes manières de prier, les traditions, enfin ce genre de choses. Et plus spécifiquement, de là encore vous introduire à ce qui est peut-être la mère de toutes les prières chrétiennes, qui est la Lectio Divina. Il est vrai que les deux choses sont, en un sens, enfin, ça vous apparaîtra peut-être plus clairement à la fin du cycle, mais les différentes traditions de prière, par exemple chez les Carmes, chez les Jésuites, chez tout ce qu'on veut, c'est comme si la Lectio Divina, on avait tiré des fils, et puis on avait privilégié un aspect de la Lectio Divina au détriment des autres. Mais bon, voilà, c'est légitime, c'est une manière de... Mais c'est quand je dis c'est la mère, c'est-à-dire qu'elle a engendré toutes les traditions de prière reconnues en tout cas par l'Église. Après, bon, il y a toujours des gens qui peuvent décider de se mettre un artichaut dans l'oreille et puis que ça les... Mais enfin, on ne va pas parler de ça. Hein. Ce qui a été authentifié par des saints et authentifié par l'Église. Alors d'abord, l'introduction générale, c'est ma première partie. Ensuite, on aura 5 minutes pour servir les desserts. Et puis ma deuxième partie sur la Lectio Divina. Bon, alors, il faut bien partir quand même d'une certaine conception de l'homme. C'est pas toutes les compréhensions de l'homme qui permettent de dire que l'homme est un être priant. Vous voyez, il y a différentes manières de concevoir ce qu'est l'être humain, différentes anthropologies. Mettons, à l'intérieur même de la philosophie, il y a différents courants philosophiques qui vont insister sur tel ou tel aspect de l'homme. Bon, mais tous ne permettent pas également de rendre compte du fait que non seulement c'est une activité possible et pas absurde que l'homme prie, mais même que c'est allons plus avant, c'est que c'est l'activité la plus importante de l'être humain, c'est cette actuation de sa relation avec Dieu dans l'ordre de la prière. Déjà, faut avoir conscience de ça. Toutes les compréhensions de l'homme ne sont pas, ne permettent pas de justifier l'activité priante. Deuxième point, ça suppose aussi certaines idées, là j'ai parlé de l'homme, mais certaines idées de à qui on adresse la prière, vous voyez. Il y a celui qui prie, quand on prie, il y a un peu deux réalités, celui qui prie puis celui qui est prié. Il faut avoir aussi une certaine compréhension de l'élément, de la réalité à laquelle on adresse des prières. Ou éventuellement dire qu'il n'y en a pas et que la prière, en fait, ce qu'on appelle prière, c'est une certaine manière pour l'homme de se situer dans un certain état de conscience qui peut le conduire à une paix intérieure, une sérénité. Donc c'est une activité, on va appeler ça la méditation, ou proche de la prière, mais disons que ça ne recouvre pas ce que l'Église nous dit de la prière, à savoir que c'est essentiellement quelque chose d'ordre dialogal. Donc il y a deux partenaires, hein, c'est comme au tennis, il y a l'homme et il y a Dieu. Alors c'est justement, sur ce deuxième point, il me semble que, au fond, quand on prend un peu de recul, je dirais qu'il y a un peu deux manières différentes de présenter cette réalité ou ces réalités au pluriel auxquelles on adresse la prière. Deux courants qui existent sous de multiples avatars dans différentes sagesses, religions, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais finalement on arrive toujours plus ou moins en dehors du christianisme, on va dire, en dehors de la révélation biblique, on arrive toujours plus ou moins à circonscrire la manière dont les cultures humaines, les religions des hommes présentent quelque chose qui ressemble à la prière dans deux cercles différents, deux domaines différents. Alors, première manière, c'est ce qu'on pourrait dire les conceptions monistes de la réalité. C'est l'idée que finalement, l'être humain, dans sa particularité, sa multiplicité, son individualité, n'est que une espèce d'épiphénomène assez secondaire d'une réalité plénière et totale qu'on peut appeler l'être, qu'on peut appeler Dieu si on veut, on peut l'appeler Atman, si on peut l'appeler d'une manière différente. Mais disons, il y a un monos, un monisme, monos ça veut dire seul, il y a un seul vrais principes de la réalité, et toute l'activité priante, toute l'activité mystique, si on veut, va consister à œuvrer pour dépasser l'illusion de la multiplicité, de la distinction, et en général de la connaissance sensible, enfin, toutes sortes, pour retrouver un état qui est en fait un état d'absorption ou de fusion dans ce grand tout qui en fait donnera le salut. C'est-à-dire qu'on peut, dans cette vision moniste, le fait d'être, alors je vais employer un mot chrétien, donc c'est un peu embêtant parce que c'est pas très rigoureux, mais le fait d'être une créature, c'est plutôt une malédiction. Enfin, c'est pour des raisons, alors il y a différentes explications, mais l'un n'est pas resté enfermé en lui-même, mais un peu comme un camembert trop fait. Alors ça, je pense pas qu'on utilise cette métaphore dans les textes en question, mais c'est épanché, vous voyez, le camembert qui... Et alors le problème, c'est qu'il faut remettre le camembert dans la croûte, finalement. Donc, oui, donc c'est, alors... Et la manière de remettre le camembert dans la croûte, c'est pas très beau cette image, là, je sais pas pourquoi, mais... c'est en particulier essayer de dépasser dans la conscience, de retrouver au moins dans la conscience la perception qu'on est un, c'est-à-dire d'une autre manière annuler dans la conscience la perception que je suis dans une altérité par rapport au grand tout et par rapport aux autres. Ce qui n'arrivera que dans des moments privilégiés, mais plus on va s'habituer dans cette, plus on va s'y habituer, plus il y a des chances que on finisse par se fixer définitivement dans l'état d'absorption et de réintégration et de perte de l'individualité dans le grand tout. Alors très souvent dans ces doctrines-là, c'est lié aussi à la métempsychose, ou enfin donc il y a de la réincarnation. Donc il y a l'idée que si j'ai une vie de prière assez développée dans cette optique, eh ben, quand je me réincarnerai, j'aurai déjà, je partirai avec, j'aurai 10 sur 20 d'entrée de jeu, là, oui, donc j'arriverai à 15, puis à 20 sur 20, là, pour le coup, c'est l'illumination totale, et donc je suis réabsorbé dans le grand tout. Ça se retrouve de plein de manières différentes, en fait, dans c'est beaucoup dans l'Extrême-Orient, hein, dans le bouddhisme, et en fait, dans l'hindouisme aussi. L'hindouisme, c'est un truc très bizarre, c'est qu'il y a une croyance moniste et un culte complètement polythéiste et sacrificiel, c'est un peu étrange, mais enfin, en tout cas, cette idée-là, on la trouve dans pas mal de courants de religieux ou de sagesse de l'Extrême-Orient, mais on la trouve aussi dans certains courants philosophiques. On peut la retrouver d'une certaine manière, on peut la retrouver, il y a un petit peu des choses comme ça dans le stoïcisme, dans la philosophie moderne chez Spinoza, même chez Hegel, il y a quand même cette grande idée que le salut va résider dans le dépassement d'une multiplicité et donc, quelque part, dans la disparition de ce fameux dialogue dont je vous disais qu'il formait le cœur de la prière chrétienne. De telle sorte que, d'ailleurs, la prière dans ces courants-là, ça va être difficilement s'organiser autour d'un je-tu. Vous voyez, c'est parce que le je et le tu, un vrai dialogue où il y a deux personnes qui s'apostrophent, ça a plutôt tendance à me renvoyer à ma constitution d'individu ou de personne autonome plutôt que de me faire dépasser cette illusion. Alors, deuxième grande famille, bon, si ce n'est pas le monisme, c'est le dualisme, c'est des choses alors, qu'on trouve plutôt pour le coup, peut-être je dis des bêtises, mais en tout cas qui existent, je ne sais pas si c'est là que ça apparaît, mais dans les cultes, par exemple babyloniens, sumériens, enfin dans ce genre de choses, et en fait dans énormément de cultes, y compris chez les Grecs, chez les Romains, enfin chaque fois qu'il y a de l'environnement polythéiste, avec un culte sacrificiel, on se retrouve un petit peu dans cette vision. Alors cette vision, je la caractérise comment? C'est que pour le coup, on admet une véritable distinction, enfin différence ontologique, bon, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin une différence ontologique entre deux mondes, le monde du divin, qui va être très souvent un monde habité par plusieurs dieux, et le monde des hommes. Et cette différence, elle est... c'est du dur, quoi. C'est du béton armé, quoi. C'est pas du tout une illusion qu'il va falloir dépasser. Les choses sont en elles-mêmes duelles. Enfin, il y a vraiment ces deux mondes, et le monde des hommes n'est pas une illusion qui doit se résorber dans le principe divin. Donc c'est ça qui fait la grande différence, c'est que dans un cas, l'altérité est illusoire, il faut la dépasser, dans l'autre, on l'assume comme pleinement constitutive de la réalité. Et dans ce cadre-là, les prières, l'activité orante de l'homme, ça passe très souvent par le fait que le monde des hommes, alors c'est un petit peu pessimiste cette vision des choses, mais le monde des hommes est vu comme un monde inférieur par rapport au monde divin, et dont la fonction est de rendre des services, mais peut-être même un peu d'être des esclaves, du monde des dieux. C'est essentiellement l'origine du culte sacrificiel. Le culte sacrificiel, c'est... y a plein de mythes qui justifient ça, alors dans plein de religions différentes, mais on finit toujours par retrouver ce motif-là. C'est que les dieux, à un moment donné, on en a marre de faire les courses, d'aller faire la chasse, et tout. Évidemment, dans les mythes, les dieux se comportent un peu comme les hommes, hein, ça c'est certain. À la fois, je vous dis qu'il y a une vraie différence ontologique, mais d'un autre côté, quand on en parle, on a l'impression que c'est une projection à l'étage supérieur du monde des hommes. En tout cas, ils en ont marre de se fatiguer à faire des repas, et ou bien ils demandent aux hommes s'ils existent déjà, ou bien même ils créent les hommes dans ce but qui va être de les nourrir pour que eux, soient comme les rois fainéants, n'aient plus qu'à profiter des repas préparés par les hommes. Et c'est à l'exception alors de l'hindouisme qui a une autre vision du culte sacrificiel, mais l'immense majorité des cultes sacrificiels, c'est dans cette logique de repas sacré où les hommes offrent de la nourriture aux dieux et quand les dieux sont sympas, ils en donnent une petite quantité aux hommes aussi. C'est une manière de dire, ben voilà, un serviteur, bon, ben on lui laisse finir les plats, quoi, en fait. Hein, donc, quand il a ramené les trucs en cuisine, on va pas trop regarder si finit l'assiette du dieu. Donc c'est le modèle dualiste, alors qui pour le coup va être un modèle, alors qui va aussi produire des prières, des choses comme ça, où la dimension dialogale va être parfaitement assumée, et aussi des choses qui nous paraissent très naturelles à la prière, le fait de supplier, typiquement on va dire au Dieu, mais regarde, regarde comme on t'a offert des beaux sacrifices, des beaux holocaustes, ça t'a bien, et maintenant envoie-nous la pluie, et maintenant envoie-nous je sais pas quoi, livre-nous nos ennemis, donc... Il y a toute une activité, est-ce qu'il faut dire utilitaire? Enfin, vous voyez qu'en fait, on projette un peu des règles de la cour royale dans le monde des dieux. Alors, c'est une prière très difficile. La première prière, je vais dire que très facilement, la prière du monisme, c'est une prière qui va viser le dépassement du langage, qui va être plutôt une prière intérieure, à la limite une prière sans rite, même si c'est très difficile, même dans le bouddhisme. Qui déjà ont bien, c'est le bouddhisme, c'est une hérésie de l'hindouisme. Donc ils ont l'hindouisme, c'est ultra sacrificiel et ultra ritualisé. Alors le bouddhisme, ils ont déjà viré 99% de cette dimension rituelle de l'hindouisme, et même ils en gardent un peu. C'est très difficile de se passer complètement de ritualité dans la prière. Mais en gros, la tendance des religions monistes, c'est vraiment de dire, mais c'est tout se passe dans ton intériorité. Ferme les yeux, ferme les écoutilles de tes sens. Rentre en toi-même et découvre en toi-même, fusionne en toi-même avec la fine pointe de ton âme, et tu découvriras que la fine pointe de ton âme, c'est le grand tout, c'est l'être, c'est l'amour avec un grand A, et dans une logique impersonnelle. Tiens, le New Age, par exemple, c'est tout à fait, ça va tout à fait dans cette. Faut pas se faire piéger par le New Age, parce qu'ils mettent le mot amour et des trucs comme ça. Des fois, ça ressemble un peu au christianisme. Même les gens qui ont fait des NDE, des fois, ils disent des trucs comme ça. Faut un peu se méfier, hein. Pour nous, la question de la personnalité est très importante. Donc, vous voyez, ça c'est plutôt la prière en régime moniste, une prière intérieure, silencieuse, même sans image intérieure, sans mot intérieur. La prière en régime dualiste, bah, c'est facile, c'est le contraire. On va plutôt mettre des belles chasubes bien dorées, avec une belle mitre, enfin, bah, l'équivalent quoi. On va mettre un truc, on va mettre des trucs avec des grelots, on va faire de l'encens. On va faire des prières et puis ça n'en finit pas. Alors là, comme chez nos frères orthodoxes et machin, non, 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 on en remet une couche. Et tous les milieux, ouais. On fait tout dans l'extérieur et là, le rite acquiert tellement d'importance qu'à la limite, l'état intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que je pense au moment où je fais les rites, tout le monde s'en balance. C'est-à-dire que je peux parfaitement penser tout en faisant, mais oh là 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 là, machin. Moi. Non, mais c'est pas ça, parce que ça, c'est nos frères. Là, je parle plutôt des Babyloniens, ouais, dans les ziggourats ou des trucs comme ça, mais. En fait, dans le monde polythéiste, en général, les dieux ne sont pas omniscients. Ils ne savent pas ce que vous pensez. Donc, vous pouvez très bien penser à votre liste de courses. L'important, c'est que vous fassiez bien les rites comme il faut. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux religions, vous voyez assez aussi quelque chose qui correspond à une image de l'homme, hein, qui est corps et âme. Vous voyez bien qu'il y a d'un côté un truc, on va dire, bah, l'homme, à la limite, ça rejoint un petit peu cette magnifique homélie que nous venons d'entendre tous. C'est-à-dire, d'un côté, l'image que l'homme, ça devrait être une âme, et c'est bien dommage qu'il ait un corps. Et de l'autre côté, en modèle dualiste, on se dit, bon, ben, allez, on fait les trucs qui mobilisent le corps, mais à votre sincérité, votre amour de Dieu, ou des dieux, parce que c'est souvent polythéiste, ça n'a pas grande importance. Alors, vous ayant dit ça, vous allez vous sentez tout de suite que le génie du christianisme, c'est qu'il a opéré la synthèse des deux mouvements. Puisqu'en fait, comme en toute chose, hein, je pense que le péché a abîmé notre condition de créature, et en particulier notre condition d'homme priant. Et notre condition d'homme priant mobilise notre corps et notre âme. Mais le péché divise, c'est la mort en fait. Hein, quand on veut séparer le corps et l'âme, ça s'appelle mourir. Et donc, nous prions dominés par la mort, c'est-à-dire que nous avons tendance à sélectionner un des deux éléments au détriment de l'autre. Tout le travail de la prière chrétienne, ça va être de réunifier ces deux éléments, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire unifier le corps et l'âme? Si séparer le corps et l'âme, ça s'appelle mourir, réunifier le corps et l'âme, voilà, ça s'appelle ressusciter. Donc la prière chrétienne est en elle-même, dans sa double constitution de rite et de parole, et en même temps d'état intérieur, et on sent bien qu'il faut les deux, vous sentez bien qu'à la messe, si vous fermez les yeux, on se dit, putain, il ne peut pas se taire le mec avec sa prière eucharistique, je suis en train de faire une super oraison. C'est pas bien, vous sentez que c'est pas bien. Mais vous sentez d'un autre côté, si vous regardez juste le type faire machin, et puis qu'en fait, dedans, vous n'êtes absolument pas accordé intérieurement au Seigneur, vous sentez que c'est pas bien non plus. Vous voyez, c'est une école de résurrection, en fait, ce que nous faisons dans la prière. C'est pour ça que c'est compliqué de prier, parce que c'est compliqué de ressusciter. Alors, là, la grande manière de... Comment on fait pour ressusciter? Ah, mais ne rigolez pas, c'est ce qu'on croit. Comment on fait pour ressusciter? Non, mais j'ai pas dit que j'étais expert en ressuscitation, mais c'est la parole de Dieu qui vient nous réunifier et nous ressusciter. C'est vraiment la parole de Dieu, la parole faite chair, et puis là. Donc, vous voyez que vous devez vous dire, mais finalement, cette école de prière qui nous permet d'être à la fois moniste et dualiste, en fait, il faut être les deux à la fois, c'est seule la parole de Dieu peut nous permettre de dépasser cette dichotomie mortifère et donc de retrouver cette prière qui nous met en chemin vers la résurrection. La parole de Dieu, alors c'est d'abord le Christ, mais évidemment le Christ, nous le connaissons par les sacrements. Les sacrements, ça fait partie de la prière de l'Église, d'ailleurs. Malheureusement, je ne peux pas trop développer ce point-là ce soir, mais de manière immédiatement après, on va dire, la célébration des sacrements, et même à l'intérieur même des sacrements, on lit toujours l'Écriture sainte. Ok, donc c'est ça l'origine de la Lectio Divina, finalement. Ça va être d'acquérir une telle familiarité orante avec la parole de Dieu qui vous ressuscite que dans le lieu par excellence de la prière chrétienne, qui est la célébration des sacrements, et en particulier l'Eucharistie, ça va être un feu d'artifice. Donc je suis pas... Voilà, si pour faire les choses comme il faut, il aurait fallu que je vous parle de la prière dans l'orbite sacramentelle, parce que c'est d'abord là qu'on prie. Mais je sais pas pourquoi, d'ailleurs c'est peut-être... Je sais plus qui a pris cette décision, c'est peut-être moi, mais c'est une mauvaise décision, mais tant pis, on a choisi comme ça. Je vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de la Lectio Divina, mais qui est quand même très proche... très 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 ancré déjà, très très antique, enfin très avec un E, donc très très relié à la célébration des sacrements. Comment fait-on pour prier avec l'Écriture sainte de telle sorte que quand nous entendons la parole de Dieu à un baptême, à une messe, à tout ce qu'on veut, le sacrement, il a d'autant plus sacrement, c'est le Christ agit et parle, en fait c'est les deux aspects des sacrements, et quand si vous avez fait une Lectio Divina sur si ça fait 20 ans que vous faites une Lectio Divina, je vous promets, quand vous allez à la messe et que vous entendez la parole dans le sacrement de la messe qui est celle sur laquelle vous avez prié, l'hostie, elle a plus de goût. elle a plus de goût. En tout cas, vous recevez le Christ, mais c'est mystique. Hein, mais c'est pas des protéines, la messe, vous comprenez? C'est pas juste égalisé. C'est pas tout le monde reçoit 20 kilocalories. Quand vous communiez, ça prend toute votre prière, elle est présente, et plus vous allez être familier de l'écriture sainte dans une perspective de prière, et plus les sacrements vont faire un effet de grâce puissant en vous. Ça, c'est très important, hein. C'est pour ça qu'on prie. Hein. On prie à côté de la messe pour que la messe... Enfin, moi, ça fait 50 ans que je vais à la messe, pour moi, je suis toujours au zéro. Donc, mais un jour, je ne désespère pas que finalement, il se passe vraiment ce que je crois, c'est-à-dire que je reçois le Christ et que je deviens un autre Christ de manière plus évidente. Donc là, je vais vous faire la deuxième partie, ça va être la Lectio Divina. Je vais faire la pause. Est-ce que vous avez compris monisme, dualisme, pourquoi est-ce qu'on va faire les deux? Pourquoi est-ce que les chrétiens ont réuni les deux? Est-ce que vous avez compris pourquoi ça aurait été bien de parler de la prière dans les sacrements et qu'on ne l'a pas fait? Enfin, vous avez compris qu'on ne le fait pas. Mais il faudrait, parce que c'est un petit peu prétentieux de dire « Salut les gars, je vais prier, en fait. » Vous voyez? C'est déjà un petit peu de dire « Mais qui suis-je pour dire à Dieu ben, je vais me mettre devant toi, et puis je vais prier, tu vas m'écouter. » En fait, c'est assez prétentieux. Non, c'est la prière, on la reçoit de l'Église. Même votre prière la plus personnelle dans votre chambre, devant votre icône, votre bougie, une personne vous voit, elle n'a de sens que si elle est partie prenante de la grande prière que l'Église adresse au Père dans le Christ, et cette prière, c'est la réponse de l'Église à son époux qui est le Christ. Hein. Donc toute notre prière, elle trouve sa vérité dans le milieu vital de l'Église, et donc d'abord et avant tout dans les sacrements. C'est pour ça qu'il aurait fallu commencer par ça. Mais j'ai oublié, donc c'est pas très grave, on va faire l'Lectio Divina, et là on donne les desserts. Ah mais c'est bien, je suis pas en retard. Vous avez 5 minutes pour prendre les desserts et je vous parle de la Lectio. La vie spirituelle est plus large que notre vie de prière. La vie spirituelle, c'est notre vie tout court avec le Christ, donc c'est notre vie tout court. La prière, je dirais que c'est cette étape cruciale, c'est pas toute notre vie spirituelle, mais c'est une étape très importante où nous essayons de faire advenir à la conscience le plus d'éléments possible, plutôt nous disposons notre conscience pour que Dieu nous révèle le mieux possible, le plus possible, quelle est notre relation d'amitié avec lui. C'est très vague comme des... J'essaie de donner une vague définition de la prière, mais il faut bien partir de quelque chose. C'est sûr qu'on peut dire, après tout, toutes les activités de l'homme peuvent être prières, et c'est vrai. On peut dire, après tout, quand je travaille, si je fais même un travail pas très marrant, mais j'essaie de le vivre uni avec le Christ. Alors d'ailleurs, si mon esprit est assez libre, je peux tout à fait dire le chapelet en faisant un travail, je sais pas, avec les mains, un truc comme ça. Mais de manière habituelle, un travail qui mobilise notre intelligence et notre volonté, c'est quand même pas possible de prier. Ça peut être une activité, on peut vraiment le faire uni au Christ, mais à un moment donné, et donc on peut dire analogiquement, je prie toute la journée, mais là, en gros, hein, quand même, vous l'avez compris, j'aurais dû le dire, quand le but, c'est plutôt de remarquer que dans le christianisme, comme dans toutes les religions et toutes les sagesses du monde, il y a quand même des moments privilégiés de la journée où nous sommes entièrement consacrés à cette relation avec Dieu. C'est ça qu'on appelle, il faut bien donner un sens au mot, voilà. La vie de prière, c'est ça. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas n'importe quelle conception de l'homme qui est compatible avec une vie de prière. La conception, justement, chrétienne, il y en a plusieurs, mais enfin, une qui a ses lettres de noblesse parce que saint Paul s'en fait l'écho, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie trichotomique. À trois couches. Vous avez ça en 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5 vers 3. Je vais y arriver. 1 Thessaloniciens 5, 23. Où on nous dit que l'homme est corps, âme, esprit. Ce verset, on l'entend tous les jeudis soirs au compli. Corps, âme, esprit. Et en fait, pour les pères de l'Église, les premiers pères de l'Église, ce schéma était très important parce qu'il permettait de corriger, dans un sens chrétien, l'anthropologie dichotomique ou dualiste qui avait plutôt cours dans la tradition philosophique grecque, à savoir le fait que l'homme est corps et âme. Mais si vous dites que l'homme est corps, âme, esprit, vous rajoutez une couche qui est l'esprit, mais c'est quoi cette couche que vous rajoutez? Ben c'est précisément ce milieu divin entre la créature humaine et son créateur. C'est précisément ce par quoi l'homme peut atteindre Dieu par la prière. Et c'est constitutif de l'homme. Mais c'est constitutif de l'homme, non pas à la manière d'un donné ontologique, mais comme un lieu de réceptivité. Si je dis que l'homme est corps, âme, esprit, et que l'esprit appartient entièrement je dirais, à l'horizon humain, tout en disant que l'esprit, c'est le lieu de rencontre de l'homme et Dieu, vers quel courant de pensée je suis en train de dériver. Ma question est tellement compliquée que moi-même, j'ai perdu le fil. Mais je vais... En fait, je vais vous faire prouver un truc, mais c'est toujours très mal quand on a des questions fermées. Mais... Regardez, vous voyez ce que je veux dire ? Dit l'homme, il est corps, âme, esprit. Votre corps, vous pouvez faire en partie ce que vous voulez. Si vous décidez de planter un clou, on peut prendre un marteau. Oui, vous êtes aux commandes de votre corps. Vous êtes aussi aux commandes de votre âme. Si vous décidez de démontrer qu'une extension algébrique de Q, c'est un sous-corps d'un corps cyclotomique, n'importe qui est capable de faire ça en 10 minutes. Enfin, c'est un peu compliqué quand même ça. Je ne sais pas si je saurais le refaire, mais ça se fait. Donc vous avez un certain pouvoir d'action sur votre âme. Quand il s'agit de Dieu, si je vous dis vous êtes corps, âme et esprit, et l'esprit c'est lieu de la rencontre avec Dieu, si je vous dis que de même que vous pouvez planter un clou ou démontrer un théorème de mathématiques, vous pouvez prier, ça devrait vous faire tiquer, parce que je viens de vous dire que précisément... Oui.
Gnose.
Le
C'est de la gnose.
Voilà, exactement, bravo.
Il est bon.
Bravo, c'est exactement ça. Vous voyez, une espèce... L'idée, je me lève parce que ça devient important. Cette idée que mon rapport au divin est entièrement à ma disposition, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'il suffit que je veuille m'unir à Dieu, et si j'en prends les moyens, de même que si je veux faire du jogging tous les matins, j'en prends les moyens, ou si je veux faire une heure d'exercice de maths tous les matins, j'en prends les moyens. Si je veux prendre les moyens de m'unir à Dieu, il suffit que voilà, ça se fera bien. Mais en fait, vous voyez bien que cette manière de voir la prière, en fait, atténue, estompe, voire même annule la différence qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et donc, on est en train de tomber dans quel type de courant dont je vous propais, à propos duquel que je vous causais tout à l'heure ? Le monisme, exactement. Voilà, exactement, le monisme. Alors, donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'homme est corps, âme, esprit, mais en fait, cet esprit, c'est ce qui appartient en propre à l'homme, c'est une capacité réceptive de dialogue avec Dieu. C'est-à-dire que si Dieu... il ne fait pas sa partie, j'aurais beau être corps, âme et esprit, et j'aurais jamais de relation vivante avec Dieu. Et le grand danger de l'homme, c'est que, comme malgré tout une capacité réceptive de dialogue avec Dieu, vous sentez bien que c'est le truc le mieux qu'il y a dans l'être humain. En fait, si vous avez un petit peu, enfin j'espère que vous le sentez, mais si vous avez un petit peu de... Enfin, vous le sentez bien. C'est tout ce qui nous rapproche de Dieu, c'est forcément ce qui a le plus de prix en nous. Et donc, là, en fait, ça nous explique pourquoi quelque chose comme la gnose peut exister, ou le monisme peut exister. C'est que vous pouvez vous enivrer d'une pure négativité, mais dont le propre est qu'elle est potentialité de contact avec Dieu. Et cette négativité, elle est tellement... une simple négativité de contact avec Dieu est tellement magnifique que vous pouvez bâtir une mystique et une religion là-dessus, mais à la limite, qui presque pourrait combler le corps de l'homme. Donc ça, c'est une explication, cette anthropologie trichotomique, elle nous explique pourquoi quelque chose comme le gnosticisme ou le monisme ou tout ça, et toutes les mystiques païennes, en fait, c'est pas du tout des illusions, c'est pas du tout des mensonges, mais c'est confondre un creux avec un plein. C'est-à-dire, on est tellement émerveillé devant cette... on la saisit pas justement comme une réceptivité d'un dialogue, sinon on ferait autrement, mais on sent qu'on a quelque chose d'un peu divin en nous, c'est la capacité de dialoguer avec Dieu. Et c'est tellement énorme que ça suffit à faire une religion, ça suffit à faire une mystique. Tiens, la mystique néoplatonicienne, c'est exactement ça. Donc vous voyez, c'est très puissant parce que c'est toujours bien quand on comprend une vérité, comme on dit, veritas index facitatis, ou un truc comme ça. La vérité est index de fausseté, mais pas l'inverse. C'est-à-dire qu'une vérité doit vous expliquer comment l'erreur est possible. Alors, cette strate de l'esprit, c'est Origène qui, le premier, je pense, a essayé de comprendre comment, par cette dimension essentiellement réceptive à Dieu en nous, qu'on peut appeler l'esprit, l'homme est corps, âme, esprit, nous pouvons, justement, ne pas se tromper et pas prendre un réceptacle pour un plein. Mais il faut quand même le remplir de quelque chose, et le remplir, c'est le remplir de la parole de Dieu. Et donc c'est Origène le premier qui a dit, mais il faut appliquer cet esprit à l'écriture sainte, pour que justement on ne soit pas dans ces illusions gnostiques, où l'homme est une étincelle divine, dans le fond de ton âme tu es divin, tu t'en rends pas compte, mais dans le fond de ton âme tu es divin. essaie d'adopter une sérénité et surtout d'éliminer tout trouble autour de toi. Donc ne va te fâcher avec personne, sois ami de tout le monde, mets à distance toute cause de... Et plus tu fais ça, plus tu vas fusionner avec l'étincelle divine de ton âme et tu réintègres Dieu. Voilà, ça c'est en gros le gnosticisme, le New Age, le néoplatonisme. Il y a plein de variantes, mais c'est toujours ce choix-là. Origène dit non, ce qu'il faut, c'est se disposer à écouter Dieu dans l'Écriture sainte. Voilà, c'est cette lecture spirituelle, c'est exactement ça, l'intelligence spirituelle de l'Écriture, c'est recevoir des mots humains dans cette capacité, l'esprit, qui est une capacité humaine à, écouter, à être en contact avec Dieu, à écouter Dieu. C'est-à-dire que c'est essentiellement, évidemment, une lecture priante de l'Écriture sainte. Il y a d'autres lectures possibles de l'Écriture sainte. On peut lire l'Écriture sainte comme un roman, et c'est déjà formidable, je pense que c'est très très bien. On peut lire l'Écriture sainte comme un historien, c'est aussi extrêmement intéressant. Mais lire l'Écriture sainte comme un moine ou comme un chrétien, en fait, tout simplement, c'est encore autre chose. Peut-être d'ailleurs que plus vous aurez lu l'Écriture sainte comme un historien, ou plus, si vous avez comme un roman, votre prière sera riche, mais c'est qu'on sent bien qu'on est dans un autre état d'esprit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes feuilles ? Elles sont là. Donc, Origène nous dit, c'est ça l'intelligence spirituelle de l'Écriture. C'est finalement, à travers les mots humains, recevoir une parole qui vient de Dieu, et donc dépasser le premier sens que comporte le texte biblique, qui est accessible à l'homme, puisque ce sont des mots humains, ça raconte des histoires humaines, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Israël, il y a des psaumes, on nous parle de sacrifices, donc tout ce qui nous est raconté dans la Bible, il y a un premier niveau de lecture qui est un niveau humain, accessible à tout le monde, ce qu'on appelle le sens littéral. Mais si je le lis en mobilisant cette capacité spirituelle que Dieu a mise en moi pour dialoguer avec lui, je vais m'élever du sens littéral à un autre sens, qu'on appelle le sens spirituel, et qui est cette unité priante à Dieu, c'est-à-dire, en fait, Dieu me parle avec les mots de la Bible, et moi je lui réponds avec mes mots, mais en fait de plus en plus avec les mots de la Bible aussi. Donc il y a deux, c'est les deux niveaux, en fait, de, alors ça c'est très très fondamental, j'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais toute la tradition chrétienne repose sur cette dualité de sens de l'Écriture sainte. Une première approche accessible à tout le monde, n'importe qui peut lire la Bible. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, il y a du sens pour n'importe qui. On peut très bien trouver littérairement intéressante. On peut comparer l'histoire d'Abraham et celle d'Ulysse. Allez voir, comment s'appelle là enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais... bref. Auerbach, là, dans... il compare l'histoire de l'Odyssée et l'histoire d'Abraham. Donc on peut très bien faire ça de manière... en spécialiste de littérature, en philosophe, en historien, mais... Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans cette intelligence spirituelle de l'Écriture. Là, j'ai parlé de l'esprit, d'ailleurs, il faut que je sois plus précis. J'ai dit il faut cette capacité humaine, mais il faut aussi qu'elle ait été réparée, réintégrée, guérie par le sacrement du baptême. J'aurais dû commencer par ça. Oui, mais quand je suis baptisé, en fait, dans ma tranche corps âme esprit, le baptême, si j'ai une jambe cassée, ça ne me la répare pas. Si je ne sais pas ce que c'est... que la comogie abélienne des variétés complexes, bon, ben ça m'a... Mais par contre, ça répare mon esprit, vous voyez, ça répare pas tellement le corps et l'âme, mais ça me remet l'esprit dirigé vers Dieu. Ça, c'est le baptême. Donc ça me rend capable d'entrer dans cette lecture de l'Écriture sainte, lecture spirituelle, qui est un dialogue amoureux avec Dieu, où Dieu me parle à moi, ou à l'Église, mais là, quand je fais dans l'Alexo Divina, je suis plutôt tout seul dans ma cellule de moine, il me parle à moi au présent avec des mots anciens, et moi, je lui réponds, ou bien avec mes mots, mais de plus en plus, encore une fois, vous allez vous rendre compte que, en fait, vous allez sortir, vous allez répondre à Dieu avec des mots de psaume, avec des mots de Jésus dans l'Évangile, et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que vous sentez dans la Lectio Divina comment Dieu est en train de vous diviniser. Si de plus en plus, votre manière de parler à Dieu, ça devient la manière dont Dieu vous parle, là, vous êtes aux portes du ciel, en fait, hein, vous êtes aux portes du paradis. Parce que c'est... Oui, on devient fils de Dieu, hein, c'est ça le... Mais ça se fait petit à petit. Si au début, déjà, l'Évangile vous touche et que vous êtes capable de répondre simplement avec des mots tout simples, genre « Merci Seigneur » ou un truc tout bête, c'est déjà très très bien. Hein. Faut pas tout de suite imaginer hein, que... Mais enfin, ça peut venir. Hein, on peut... Alors, donc ça, c'est la base, je vais dire, théologique de l'intelligence spirituelle. À partir de l'Écriture sainte, On a l'âme qui est réparée par le baptême, qui nous permet de dépasser un premier niveau de compréhension, qui est plutôt l'histoire passée, pour, à travers ces mots anciens, entendre une parole au présent, qui est cette parole amoureuse que Dieu m'adresse et que je vais pouvoir lui rendre. Les chrétiens ont toujours prié comme ça, en fait. Ils ont prié l'Alexio Divina avant de savoir qu'ils faisaient de l'Alexio Divina. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça, non seulement que les chrétiens prient, mais aussi qu'ils font de la théologie, qui comprennent ce que c'est que la morale. Enfin, normalement, c'est ce qu'on verra en cours, mais j'ai oublié que je suis pas cours. C'est ce qu'on verra. Enfin, c'est ce que je fais dans mon cours sur l'interprétation de l'écriture, c'est que normalement, toute la vie chrétienne, pas uniquement la prière, hein, je vous ai dit, la prière, ça n'est pas toute votre vie spirituelle. Mais en fait, toute notre vie spirituelle, donc aussi notre manière de travailler, notre manière de, je sais pas, d'essayer de participer au bien commun dans la cité, normalement, tout ça, on doit le tirer de l'écriture sainte par l'intelligence spirituelle. Et donc ça va quand même assez loin. Mais je reviens à mon sujet plus précis, qui est ce temps précis que je donne tous les jours à Dieu. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est bien pour la Lectio Divina. Vous voyez, il y a d'autres manières, si on n'a pas assez de temps, il y a d'autres manières de prier, mais la Lectio Divina, c'est une manière de prier qui réclame minimum 20 minutes, une demi-heure. Alors, on a toujours fait ça dans l'Église. Mais les moines particulièrement ont développé cette manière de faire, pour une raison toute bête. Il y a quand même une... Alors, je vous ai dit, il faut l'esprit. Bon, si on est des êtres... Un être humain, il a forcément l'esprit. Faut être baptisé, bon, ça, faut être baptisé, mais enfin, ça, c'est pas très compliqué, hein, je te baptise, tout ça. Il y a encore un truc qu'il faut faire pour pratiquer l'Alexio Divina, un truc qu'il faut posséder pour pratiquer l'Alexio Divina. Ouais. Et en fait, c'est un énorme problème dans la théologie spirituelle, ça, c'est vraiment la galère. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? C'est très problématique. Ah bah, c'est très problématique, oui et non. Mais ça nous dit aussi pourquoi... La liturgie chrétienne, elle est en amont de l'Alexio Divina. C'est que vous entendez d'abord la parole proclamée dans la liturgie. Et à l'époque, on avait de la mémoire. Aujourd'hui, on n'en a plus. Mais à l'époque, on avait de la mémoire. Je pense qu'on connaissait simplement, même si vous ne saviez pas lire, à force d'aller à la messe, de faire l'office, d'entendre les psaumes, vous les connaissiez à peu près. Vous connaissiez par cœur une bonne partie de la Bible. Mais sinon, il faut savoir lire. Dans un monde où il n'y a pas beaucoup... Enfin, les moines, ils savent lire, voilà. Il faut quand même reconnaître ça. Ma sœur, par exemple, elle est bénédictine. Non, mais c'est vrai. Elle sait lire. Non, mais dans son monastère, elles savent lire. Mais les moines, ils savent lire. Donc, ce n'est pas pour rien que la Lectio Divina, elle a... Normalement, c'est la prière de tous les baptisés. C'est la prière de tous les baptisés. Mais il se trouve que pour des raisons culturelles, on va dire, enfin, c'est quand même beaucoup les moines qui ont essayé de développer, pratiquer cette forme de prière et qui l'ont théorisée. Et on verra qu'à partir du XIIe siècle en particulier, il y a eu un moment donné où il y a une grande mutation dans l'histoire de la spiritualité parce qu'il y a eu beaucoup de laïcs qui avaient une grande soif de Dieu et de prière, mais, et des gens qui parfois étaient d'ailleurs pas dans des couches misérables de la société, mais qui ne savaient pas lire. Et donc, on a essayé de trouver d'autres manières de prier à partir de l'Alexio Divina, mais qui... Il y avait le Divina sans la Lectio, donc bon, c'est... Mais bon, alors c'est une aventure absolument fantastique, c'est quelque chose de très intéressant à regarder, mais bon. Donc on est dans un milieu monastique, parce qu'on est dans un milieu où il faut lire. Alors, où on peut lire, où on sait lire. Il se trouve qu'il y a un auteur, alors plutôt tardif, qui a écrit un petit livre pour expliquer aux moines, justement, comment ils doivent pratiquer la Lectio Divina. Les moines, mais en fait, c'est pour tout le monde, ça devrait être, dès que vous savez lire et que vous êtes baptisé, vous devriez faire de la Lectio. Enfin, vous pouvez en tout cas faire de la Lectio. Ce monsieur s'appelle Guig. Beau prénom, plus très donné dans nos campagnes. Est-ce que quelqu'un connaît un Guig? Moi, je connais aucun Guig. Je connais des geeks, attention, c'est vrai, mais Guig. Bon, à l'époque, il y avait des Guigs. Alors, ce mec-là, c'est Guig le Chartreux, deuxième du nom, parce qu'il y en a au moins quatre, des Guigs. Alors, c'est pas père et fils, hein, attention, hein, c'est des filiations spirituelles. Hein, Alors, Guig II, le Chartreux... Il est mort en 1188, hein, oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez tardif. Et il a fait un ouvrage alors, très célèbre qui s'appelle « L'échelle des moines », qui a un autre titre aussi, c'est « La lettre sur la vie contemplative ». Alors c'est édité aux Sources chrétiennes, c'est le numéro 163, c'est pas gros du tout. Donc si ça vous intéresse de le lire en deux heures, vous lisez que la page de droite, hein, la page de gauche, on s'en fout, enfin c'est le latin, donc puis c'est intéressant de temps en temps, mais... Donc ça, c'est, ça se lit très bien. Alors, Gig, il vient montrer, si vous voulez, c'est toute cette pratique des moines qui se transmettent oralement, enfin les moines, la manière dont on prie, et donc il nous donne le meilleur de la tradition de la Lectio Divina. C'est un modèle, moi après, je dis toujours, il faut être un petit peu souple, prier avec la Bible, le sens spirituel de l'écriture, enfin, si vous ne respectez pas les étapes que dit Gig, peu importe, enfin, si c'est l'esprit vous dit ou d'autres, c'est intéressant d'avoir son schéma, mais et peut-être qu'on retombe toujours plus ou moins sur ce schéma-là, mais voilà, c'est un témoignage. Maintenant, Origène, il ne parle pas comme ça. L'important, c'est d'entendre, c'est l'intelligence spirituelle de l'écriture. Le schéma que je vais vous donner en quatre temps, il est précieux, mais vous voyez, c'est un cran d'autorité un peu moins. Alors, Guy, il dit, quand vous prenez votre temps de prière, vous voyez qu'il y a quatre phases successives dans votre temps de Lectio Divina. Bon, je vais vous le dire en latin, je suis désolé, parce que ça fait quand même assez compliqué. Il y a le temps de Lectio, qui a donné son nom à l'ensemble. Ensuite, il y a la Meditatio, puis l'Oratio, puis la Contemplatio. Alors, si je traduis en français, on dirait la lecture, je pense. La Méditation. Alors, Oratio, c'est un peu embêtant, parce qu'on va dire prière, mais... je dirais que c'est prière presque dans le sens de demander, hein, c'est un peu... Et la contemplatio, donc la contemplation. Alors, l'introduction, alors comme toujours, il y a toujours un prologue. C'est toujours, les prologues de ces trucs-là, c'est toujours rigolo, parce que ou bien, ils disent, ouais, c'est mes frères qui me tannaient, moi je voulais pas. Mais, ils me disaient, c'est tellement bien ce que tu nous dis. J'ai fini par hasard. Ou alors là, le gars dit, un jour pendant le travail manuel. Alors non, c'est intéressant quand même, je vous lis ça. Un jour pendant le travail manuel, je commençais à penser à l'exercice spirituel de l'homme. Vous voyez, quand je vous dis, c'est l'intérêt du travail manuel en fait, hein, c'est que. Si vous faites un geste répétitif, voilà, vous, votre esprit est libre pour penser aux grandes questions, voire même pour prier. C'est un peu ce que fait Gig. Je commençais à penser à l'exercice spirituel de l'homme et tout à coup s'offrir à la réflexion de mon esprit 4 degrés spirituels. Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio. C'est l'échelle des moines. Et cette échelle, c'est les 4 temps de la Lectio Divina. C'est l'échelle des moines qui les élève de la terre au ciel. Tiens, ça rejoint un peu, ça fait penser à l'Apocalypse. Que je vous disais tout à l'heure. Certes, elle a peu d'échelons, 4 échelons, c'est pas beaucoup. Elle est immense pourtant et d'une incroyable hauteur. Sa base repose sur la terre, son sommet pénètre les nuées et scrute les secrets des cieux. Bon, je saute, il y a une petite suite marrante, mais je saute alors. Premier temps, la Lectio. Qu'est-ce que c'est que la Lectio ? Ben, c'est à la fois le plus simple et le plus compliqué. Il s'agit de lire un passage de l'écriture. Alors, comment font les moines, la méthode qu'ils ont fini par trouver, qui n'est peut-être pas exactement celle que je conseillerais à un laïc, mais en tout cas les moines font comme ça, c'est qu'ils lisent la Bible de la première à la dernière page en continu, et quand ils arrivent à l'Apocalypse 22, ils repassent à Genèse 1. Et ils font comme ça, donc ils font ça, alors quand ma sœur, dans son inserte, c'est 1 heure par jour, je crois, je fais tous les matins. Elle a 1 heure de Lectio, et tous les après-midi, elle a 1 heure d'oraison. Parce que comme c'est un ordre bénédictin créé au XVIIe siècle, il y a à la fois le côté bénédictin et le côté mystique du XVIIe. Donc je suis bien content de ne pas être, monial. Mais enfin bon, en tout cas dans son monastère. Donc vous voyez, vous commencez... Alors, vous sélectionnez ce passage. Si vous êtes dans cette logique des moines, ben, vous reprenez simplement la Bible, là où vous avez mis le signet. Peut-être que la veille, vous avez prié 1 heure, vous avez avancé 3 mots, hein, d'ailleurs. Mais les moines, ils ont tout le temps. Hein. Donc, c'est peut-être une page, mais une page, c'est déjà énorme. Hein. C'est plutôt 4 versets, 5 versets. Et puis, vous, voilà, chaque jour, vous avancez dans la Bible. Vous ne revenez pas en arrière, vous ne sautez pas 10 pages, mais vous avancez, vous avancez, vous avancez. Moi, souvent, quand je conseille la Lectio Divina, surtout aux débutants, je leur dis, et des gens qui, par exemple, vont en messe, ça leur arrive d'aller en messe 2 semaines, je leur dis plutôt, prenez les textes du jour. Ou l'évangile, ou tous les textes. Si vous avez peur d'être. Plus on est débutant, plus on est rassuré par le fait d'avoir beaucoup de textes. Mais bon, ou que la première lecture. Mais c'est pas mal aussi parce que pour le coup, ça connecte. Ouais, mais bon, les deux sont possibles. En tout cas, on part de l'écriture sainte. Et Gig dit la lecture, donc je cite Gig, la lecture est l'étude attentive des écritures faite par un esprit appliqué. Alors, il s'agit de lire, mais en fait, nous lisons toujours trop vite et trop mal. En fait, nous lisons trop vite, surtout des textes qu'on connaît déjà. Et très souvent, on n'est pas à son affaire, en fait, quand on lit un truc, on n'est pas... on pense à 10 000 truc. Enfin, voilà, le premier temps de la Lectio Divina, il n'est pas si facile que ça, parce qu'il faut déjà avoir quitté une certaine agitation du monde extérieur pour que les mots de la parole puissent nous rejoindre avec toute leur force. Le poids des mots, hein, c'est... Il n'y a pas les photos, mais il y a quand même le poids des mots. Mais pour que il faut donc, si vous êtes en train de penser à votre devoir, à vos courses, à votre un truc que vous devez faire ou un truc que vous avez mal fait, vous ne serez pas capable de lire correctement, simplement de lire, la première étape, de lire l'Écriture sainte. C'est pour ça qu'avant la Lectio, souvent on conseille un petit temps de silence intérieur. Voilà, simplement faire silence, déposer un peu mon fardeau, dire bon, ok, je sais que j'ai 10 000 trucs à faire, Seigneur, mais j'ai très envie d'ailleurs de sauter mon temps de prière parce que j'ai 10 000 trucs à faire, mais je te donne une demi-heure, je te fais confiance pour que après ça aille plus vite. En général, ça marche assez bien d'ailleurs. Donc, petit temps pour faire retrouver la sérénité, et vous lisez le texte, et vous le lisez vraiment. Vous ne faites que lire le texte, mais vous le lisez vraiment en étant attentif aux mots, donc vous le lisez une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que les mots s'impriment en vous. Alors, je vous cite un truc que j'ai trouvé sur un site internet, mais qui est assez bien foutu, qui s'appelle lectiodivina.catholique.fr. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est plutôt bien foutu. Alors, je cite le truc. « Cette simple mais attentive, lente et dense lecture est déjà une présence divine, vérité révélée en Jésus-Christ. » Ça, Origène le disait déjà, parce qu'en fait, ça, c'est le sens littéral, vous voyez, qu'on est, quand on est cette simple lecture. Et Origène dit « Mais pour les simples, le sens littéral, ça comble leur cœur. » Il ne faudrait même pas qu'ils essayent des trucs compliqués, ils seraient largués, ils seraient... Donc, si vous débutez dans la Lectio et puis que vous dites, bon, je fais un peu le silence, puis je lis cette fois, puis tout d'un coup, mais c'est merveilleux en fait ce que je lis, et vous êtes dans la joie, vous cassez pas la tête, hein, vous profitez de ça, puis vous êtes, après, peut-être, spontanément, peut-être quand même, vous voudrez rendre une parole à Dieu, mais sinon, voilà, vous êtes déjà dans la prière. Dans la Lectio Divina, toutes les phases sont déjà des phases de prière, hein, donc vous êtes déjà en contact avec Dieu. Même dans le sens littéral, d'une certaine manière, votre esprit est déjà en contact avec Dieu. Alors, il dit, cette lecture n'est en réalité pas si facile à faire, elle demande silence, disponibilité. Bon, ça, j'ai dit. Gna, gna, gna. Ah oui, ça, c'est pas mal ce qu'il dit. Chaque lecture doit se faire paisiblement, sans hâte, sans ce désir de savoir qui dénote une recherche critique, un travail humain. Ouais, ça, c'est la Lectio Divina nous guérit contre le péché d'Adam, qui est le péché d'impatience. On veut toujours savoir la fin. Avant d'avoir parcouru, on veut toujours arriver au bout du chemin sans parcourir le chemin. Et on veut toujours. Et donc, non, la Lectio Divina, justement, ça consiste à dire, avant de regarder le verset d'après, que me dit ce verset ? Ça, c'est un vrai combat spirituel. Vous verrez qu'il y a des petits combats spirituels dans la prière, mais qui après vous serviront dans toute la vie. Péché d'impatience. Grand péché, ça. Dieu voulait donner l'arbre de vie à Adam. Le problème d'Adam, c'est qu'il a voulu, par impatience, mettre la main sur l'arbre. Deuxième temps, la méditation, je prends du retard. Une fois qu'on a lu, on peut entrer dans un travail, je dirais, plus réflexif sur cette parole qui s'est imprimée en nous. C'est le temps de la méditation. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Bobby ? Il dit, la méditation est une opération de l'intelligence. Attendez, il ne faut pas que je me plante dans des trucs que je vous lis. Vous voyez ça, ce que dit Gig. La méditation est une opération de l'intelligence procédant à l'investigation studieuse d'une vérité cachée à l'aide de sa propre raison. Donc là, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Qu'est-ce que Jésus est en train de me dire quand je lis l'épisode, par exemple, où guérit l'aveugle-né en Jean 9 ? Ben, par exemple, là, vous dites, ben bon, c'est bateau ce que je vous dis, on vous l'a dit au catéchisme, hein, enfin, sauf si comme moi, vous avez fait faire des dessins au catéchisme. Mais évidemment, vous dites, mais bon, je ne suis peut-être pas aveugle physiquement, mais j'ai sans doute bien des cécités spirituelles. Et puis je vais essayer d'être concret, tiens, de me dire, en fait, tiens, j'ai remarqué, il y a un mec à l'aumônerie, ou je ne sais pas, en cours, je fais exprès de ne pas le regarder parce qu'il me casse les pieds. Oui, c'est des trucs très concrets, en fait. Hein, ce n'est pas des belles théories sur, ah ben oui, l'homme est bien fragile, l'homme, on est toujours aveugle. Non, non. La prière, c'est toujours. Ça va, plus c'est incarné, plus c'est concret, plus ça touche votre vie, plus il y a des chances que ça soit vraiment Dieu qui vous parle. Il me dit, mais quelle personne tu refuses de voir, ou quelle réalité tu refuses de voir ? Par exemple, au moment de la vaisselle, tu dis toujours, bon les gars, je retourne à Saint-Germain-des-Prés. Ben, c'est pas bien ça, c'est ouais, aveugle à la réalité de la vaisselle, pas bien. Faut pas faire ça, c'est pas, enfin, personne le fait, mais c'est pas bien. Vous voyez ? Donc ça, c'est la méditation. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir. Et puis peut-être que ça veut dire, bah tiens, ça me rappelle l'évangile de la semaine dernière. Alors là, vous avez le droit d'aller, si vous vous rappelez le passage, d'aller tourner. Vous n'aviez pas le droit de le faire dans la lectio, mais vous avez le droit de le faire dans la méditation. Ou vous dites, tiens, c'est marrant, effectivement, telle discussion avec un ami, me parler de ça, ou un truc. Donc, vous faites appel à votre mémoire, ça vient nourrir, vous voyez, vous êtes un peu plus aux commandes, là. Un peu plus aux commandes. Mais évidemment, il ne faut pas transformer ça en dissertation de philosophie. Troisième temps, l'oratio. Alors, après un temps d'abord un peu donc, d'appropriation, d'impression dans votre âme de la parole de Dieu, après un temps où vous avez disposé les puissances de votre âme pour que ça vous, en utilisant la raison pour comprendre de quoi il s'agissait et en quoi ça vous rejoint, vous allez maintenant prier Dieu. Et normalement, vous allez le prier en correspondance évidemment avec votre méditation. Typiquement, si le Seigneur vous a fait comprendre que il valait mieux faire la vaisselle, donc c'est un très mauvais exemple, mais que par exemple, il fallait être plus attentif à telle personne. Vous allez dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Vous allez le prier pour que effectivement, vous soyez plus attentif à telle personne. Ou vous avez découvert que par exemple, dans votre vie spirituelle, il y a un tel péché un petit peu inaperçu, mais que vous tombiez souvent dans un petit travers de vanité ou je sais pas quoi. Vous dites au Seigneur, mais Seigneur, voilà, je me connais, aide-moi à repérer quand je tombe. Et puis vous le priez. Alors ça, c'est plutôt lutter contre un péché, mais ça peut être autre chose en fait. Hein. Supposez par exemple qu'au cours de la prière, vous vous rendiez compte que le Seigneur vous a fait une énorme grâce. Ben, l'oratio, c'est une action de grâce, évidemment. Là, vous dites, mais Seigneur, comme tu m'aimes, enfin, voilà, je me rends compte que grâce à toi, il faut être guidé par la méditation, mais l'oratio, c'est essayer de rendre au Seigneur ce qu'il vous a donné dans les premiers temps de la lectio et de la méditatio, avec vos mots ou avec ceux de l'écriture, si ça vient. Alors, je vous lis, alors c'est pas Guigui, il dit la prière, donc l'oratio, hein, est une religieuse application du cœur à Dieu pour éloigner des maux ou obtenir des biens. Bon, tout est là, mais enfin, c'est un peu austère. Le texte que j'ai vu sur Internet est un peu plus long et un peu plus parlant, sauf le respect de Guigui, hein, que j'honore beaucoup. Ils disent la prière, donc l'oratio, hein, la prière c'est ce troisième temps, la prière est formulée par rapport au texte qui la nourrisse. Oui, c'est évident, sinon c'est pas la peine de... Peu à peu, on s'habitue à transformer les textes en prières courtes, en invocations simples, en brèves paroles qu'on répète intérieurement. Alors ça, c'est vrai qu'il y a une histoire dans la lectio divina. La première fois que vous le faites dans votre vie, c'est compliqué. Après 10 ans, c'est beaucoup plus facile. Et ce qu'on constate, c'est que le temps de l'oratio va beaucoup changer. Et il va devenir de plus en plus simple. Et j'allais dire, en un sens, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de moins en moins verbal. Au début, vous ferez peut-être des longs discours. Cher Seigneur, en réponse à votre honoré du temps, vous allez dire votre... Et puis non, mais après, ça va être ça voulait dire 2-3 mots, mais qui vont être chargés de toute votre vie. C'est beaucoup plus fort, évidemment. Et cette simplification de l'oratio introduit merveilleusement au quatrième temps, alors qui est pour Guig, le sommet de la prière, qui est la contemplatio, où, ben, au fond, Dieu va déjà répondre à l'intérieur même de la prière à la demande que vous lui avez faite. Peut-être pas sous un mode effectif, au sens où si, par exemple, votre demande, c'était « Mais Seigneur, aide-moi à être plus assidu à mes cours, je vois que je ne vais pas mon devoir d'État, par exemple. » Bon, vous n'allez pas vous mettre à faire un théorème de maths, mais Dieu, vous sentez que Dieu vous travaille dans ce sens-là. Où vous allez... Donc la contemplatio, c'est Dieu qui reprend la main par rapport à l'oratio, et qui va de nouveau prononcer une parole en vous, mais une parole tellement profonde que peut-être, pour le coup, il n'y aura aucun retentissement dans votre conscience. Sinon, ce sentiment, quand on l'a une fois dans sa vie, je peux vous dire que la seule chose qu'il y a, on veut que ça dure toujours. C'est vraiment une paix et d'unité à Dieu, mais qui est... c'est juste le ciel sur la terre. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors ça, c'est la contemplatio. Ça vient pas forcément comme ça, hein. La contemplation, c'est vraiment Dieu qui donne. Des fois il donne mais on s'en rend pas du tout compte, des fois il donne pas parce que ça peut être parce qu'on est encore engoncé dans le péché, ça peut être aussi parce qu'il veut nous... Le Seigneur veut dire, mais il veut pas nous donner de la brioche tous les jours, hein. Il y a des moments où on a du pain sec. Voilà, mais donc c'est un peu le sommet, vous voyez, que de la lectio, méditatio, oratio et contemplatio, vous sentez bien qu'il y a une pédagogie, vous sentez bien qu'il y a une dynamique, et au fond, la contemplatio est là presque pour anticiper ce qui nous occupera toute l'éternité et même après, c'est-à-dire la contemplation de Dieu. Voilà les 4 temps de la truc, et je suis à peu près à l'heure, moi j'ai fait 3 quarts d'heure. Il y a des questions, je vois qu'il n'y en a pas, on va pouvoir... Non, ça ne dit pas. Est-ce qu'il y a une question? Non, mais c'est pas ça, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Est-ce que je veux bien prendre quand même une ou deux questions, mais très rapides? Oui.
Est-ce que ce que propose Saint-Sénat, c'est la fin des exercices spirituels quand il reprend des petits passages de l'écriture et il propose d'appliquer avec sa méthode d'imagination? Ça, c'est de la lectio divina ou pas? Enfin, en gros,
c'est une excellente question, mais j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que c'est de la lectio divina au sens où c'est vraiment, il retrouve à sa manière le sens spirituel de l'écriture, c'est-à-dire l'écriture sainte qui est reçue dans l'Esprit Saint, reçue au baptême pour conformer notre vie spirituelle. Donc je dirais, c'est de la lectio divina en tant que c'est du sens spirituel de l'écriture, mais ça n'en est pas du tout selon la méthode des moines. Parce qu'il ne met pas du tout les choses dans le même ordre, parce qu'il n'y a pas du tout, chez les moines, il n'y a pas tellement cette idée de mobiliser la connaissance sensible. C'est un truc que, alors, il y a quand même, chez Origène, il y a quand même les sens spirituels, alors pas les sens de l'écriture, mais c'est les cinq sens spirituels. Mais en fait, dans la lectio divina, ça ne se retrouve pas tellement. C'est un peu les moines, ils sont plus dans la méditation. On a entendu Guigui, il dit c'est plutôt la raison. Donc ce n'est pas vraiment de la lectio divina. Mais c'est que ça s'en rapproche. Moi, j'ai envie de dire, c'est plus proche de la lectio divina que l'oraison carmélitaine. Parce que l'écriture sainte est plus présente à même la prière ignatienne. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Non. Et ben donc on va dire les. Comment on fait? On dit les complis? On dit les grâces? C'était bon les desserts, hein?
Enfin,
on dit les grâces? On dit les grâces?